VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 25 juillet 2023, en direct de Washington DC, Nanit Talani. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, l'utilisation du vaccin antipaludique R21 Matrix M a été autorisée pour les enfants âgés de 5 à 36 mois. En Algérie, les incendies ont fait au moins 34 morts. Le président russe Vladimir Poutine s'apprête à accueillir ses homologues africains pour un deuxième sommet Russie-Afrique. Dans notre partie magazine, nous verrons comment la sécurité a provoqué une crise alimentaire dans certaines régions de l'est de la RDC. Et puis au Gabon, des éléphants viennent perturber la quiétude des villageois dans l'arrière-pays. N'oubliez pas notre page sport avec un rendez-vous avec le mondial du foot féminin et la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, l'utilisation du vaccin antipaludique R21 Matrix M a été autorisée pour les enfants âgés de 5 à 36 mois. C'est ce qu'a indiqué l'unité de recherche clinique de Naruro où les essais ont été menés. Le Faso devient donc le troisième pays d'Afrique à mettre ce vaccin sur le marché. Le point avec Eric Manirakiza.
Ce vaccin sera un nouvel outil important qui va contribuer à accélérer le programme d'élimination du paludisme au Burkina Faso, s'est réjoui le ministre de la Santé Robert Kargougou, rappelant que le paludisme est la première cause de mortalité infantile dans le pays. Le principal instigateur des essais, le professeur Alidou Tinto, salue une décision historique qui va contribuer à sauver des millions de vies, notamment celles des enfants de 5 à 36 mois qui sont les plus à risque de décès liés au paludisme. Le vaccin antipaludique R21 Matrix M a été homologué pour une utilisation par l'Agence nationale de la régulation pharmaceutique du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, précise l'unité de recherche clinique de Nanoro qui a mené les essais. Après le Ghana et le Nigeria, le Burkina Faso est le troisième pays d'Afrique à homologuer ce vaccin produit et commercialisé par un institut indien.
Toujours au Burkina Faso, un ancien député de l'Union pour le Progrès et le Changement, l'un des principaux partis du pays, enlevé vendredi à Ouagadougou, la capitale, par des hommes encagoulés, a été libéré lundi soir. Le cadre et ancien député maire de Komsilga, Issouf Nikema, avait été enlevé dans la capitale du Burkina Faso par des hommes encagoulés, armés et habillés en civil, alors qu'il se rendait à la prière de vendredi, d'après son parti. Il ressort que les 10 individus relèvent de services étatiques, a affirmé l'UPC, assurant ne pas avoir appris que des charges ont été retenues contre lui. Toujours au Burkina, un activiste favorable au gouvernement de transition a été condamné ce mardi à 3 ans de prison ferme, dont un pour diffamation contre la gendarmerie. La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Ouagadougou a reconnu Mohamed Sinon coupable de diffamation contre la gendarmerie nationale qu'il accusait de ne pas être engagé 100% dans la lutte contre les djihadistes. Leader du collectif des leaders panafricains, Mohamed Sinon a déjà été condamné en février à 2 ans de prison avec sursis pour avoir proféré des menaces de mort contre 2 journalistes. Le gouverneur de la Banque centrale au Nigeria, Godwin Emefiele, qui a été suspendu, a comparu ce mardi devant le tribunal pour répondre des accusations de détention illégale d'une arme à feu et des munitions. Il a plaidé non coupable aux 2 chefs d'accusation. Godwin Emefiele a été arrêté par le département des services d'État le 10 juin, un jour après sa suspension par le nouveau président Bola Tinubu. Le tribunal promet de le libérer sous caution s'il paye 25 500 dollars, soit 20 millions de naira. Au Soudan, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie des généraux en guerre ont tué au moins 16 personnes aujourd'hui. Des obus ont frappé des maisons civiles dans le quartier d'Ambada, dans le nord-ouest de Khartoum. Ces derniers bombardements ont alourdi le bilan à près de 3 900 morts. La guerre qui a débuté le 15 avril entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo, commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, a déraciné plus de 3,3 millions de personnes. En Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté à Tunis, la capitale, au deuxième anniversaire du coup de force du président Kais Saied. Les manifestants ont réclamé la libération de plus de 20 opposants et personnalités emprisonnées depuis février. Depuis 2 ans, l'opposition organise régulièrement des manifestations contre la politique du président tunisien qui s'est arrogé tous les pouvoirs depuis le 25 juillet 2021 quand il a gelé le Parlement et limogé son premier ministre. 5 corps de migrants subsahariens ont été retrouvés près de la frontière entre la Libye et la Tunisie. Le ministère de l'Intérieur libyen a indiqué que les corps ont été découverts lors de patrouilles. Des dizaines d'Africains subsahariens sont bloqués près de la frontière de la Libye et affirment que les autorités tunisiennes les ont expulsés de la ville de Sfax au début du mois. Plusieurs personnes sont toujours bloquées dans cette zone dans des conditions très difficiles, assoiffées et affamées en raison de la canicule, selon des groupes de défense des droits de l'homme. En Algérie, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour venir à bout de violents incendies qui ont frappé le nord et l'est du pays et causé au moins 34 morts depuis dimanche. Sur 97 incendies déclarés, il reste 13 foyers à éteindre, selon un porte-parole de la protection civile. Les précisions de Dili Diko.
Des témoins ont décrit leur fuite devant des murs de flammes qui faisaient rage comme un chalumeau, alors que les images télévisées montraient des voitures carbonisées, des magasins calcinés, des champs et des broussailles parties en fumée. Les feux ont touché plus de 15 préfectures, en particulier celles de Bouira, Jijel et Béjaïa. Des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes lors d'évacuations, selon le ministère de la Défense qui a annoncé la mort de 10 militaires. Des blessés, dont certains grièvement brûlés, sont à déplorer, selon le gouverneur de Béjaïa. Les autorités ont fait état de progrès après avoir mobilisé plus de 8000 membres de la protection civile, 500 camions de pompiers et plusieurs avions. Sur les 97 incendies, la plupart ont été maîtrisés, mais 13 sont toujours en cours, selon le ministère de l'Intérieur. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a adressé ses condoléances aux familles et le procureur de Béjaïa a ordonné l'ouverture d'enquête.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Vladimir Poutine accueille à partir de ce jeudi ses partenaires africains à Saint-Pétersbourg pour la 2e édition du sommet Russie-Afrique. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
À Saint-Pétersbourg, plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le partenariat constructif, confiant et tourné vers l'avenir entre la Russie et l'Afrique est particulièrement significatif et important, a déclaré Vladimir Poutine dans un article publié sur le site du Kremlin. Selon son porte-parole, tous les États africains ont été soumis à une pression sans précédent de la part des États-Unis et les ambassades françaises n'ont pas été inactives pour empêcher ce sommet d'avoir lieu. Il a ajouté qu'il est important que la Russie se réunisse avec les Africains pour parler, entre autres, de l'accord sur les céréales. Moscou a quitté cet accord alors qu'il permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales par la mer Noire. Le Kremlin a assuré que la Russie est prête à exporter ses céréales gratuitement vers les pays africains qui en auront le plus besoin.
Le président américain Joe Biden doit annoncer aujourd'hui la création d'un nouveau monument national à la mémoire d'Emmett Till, un adolescent noir victime d'un assassinat raciste en 1955 et devenu une figure posthume du mouvement pour les droits civiques. Claire Morin-Gibourg.
3 lieux historiques dans l'Illinois et le Mississippi formeront le mémorial qui rendra hommage à Emmett Till, cet adolescent noir de 14 ans enlevé, torturé et tué en 1955 dans l'État du Mississippi. Originaire de Chicago, le garçon rendait visite à sa famille et avait été accusé d'avoir sifflé une femme blanche. Puis il a été enlevé et son cadavre mutilé a été retrouvé dans une rivière. Sa mère, Mamie Till Mobley, avait insisté pour que le cercueil de son fils reste ouvert afin que la foule immense puisse voir son visage défiguré. Devenue une militante des droits civiques aux États-Unis, Mamie Till sera également mise à l'honneur par ce monument. La proclamation de création du monument sera effectuée par Joe Biden à la Maison-Blanche en présence du dernier témoin encore en vie de l'enlèvement d'Emmett Till. Wheeler Parker, un pasteur octogénaire, est le cousin et l'ami qu'il a vu être emporté avant d'être assassiné. D'après la Maison-Blanche, le monument à la mémoire d'Emmett Till fera partie de l'histoire plus large de l'oppression des Américains noirs, de leur survie.
Le drapeau américain flotte à nouveau au siège de l'UNESCO à Paris. La première dame américaine, Jill Biden, a déclaré qu'elle et son mari sont fiers que les États-Unis réintègrent l'UNESCO. L'ancien président Donald Trump avait annoncé en 2017 le retrait des États-Unis de l'UNESCO, accusant l'organisme de partialité à l'égard d'Israël. À présent, la Minute Éco avec Mohamedou Oumfa.
La Société nationale des pétroles du Congo-Brazzaville, SNPC, a signé à Alger un protocole d'entente avec la Sonatrach, la Société nationale algérienne des hydrocarbures, pour renforcer la coopération en matière d'exploration et de développement des hydrocarbures. Le projet porte sur l'échange d'informations liées au pétrole et au gaz, ainsi qu'au partage d'expertise dans plusieurs domaines. En Afrique du Sud, un méga projet pour creuser des souterrains sous la plus importante mine à ciel ouvert a commencé à produire des diamants, a annoncé ce mardi le groupe de Beers, premier fournisseur de diamants, qui promet ainsi de générer des profits au moins jusqu'en 2045. La mine de Venetia, près de la frontière avec le Botswana et le Zimbabwe, est exploitée depuis 30 ans. Le diamant se faisant rare, le groupe avait parié sur la construction d'infrastructures permettant d'accéder à des roches souterraines sur un investissement de 2,3 milliards de dollars. Le Maroc recevra 350 millions de dollars de prêts de la Banque mondiale pour renforcer sa sécurité de l'eau, a annoncé lundi l'agence de presse officielle MAP. Ce programme aidera Rabat à étendre le réseau d'eau potable et d'irrigation.
Maintenant, la page sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Nanit, bonsoir à tous.
Nous commençons avec la Coupe du monde féminine qui se poursuit en Nouvelle-Zélande et en Australie avec les rencontres de la deuxième journée.
La Norvège a été accrochée 0-0 par la Suisse qui prend la tête du groupe A. Les Suissesses, vainqueurs 2-0 des Philippines lors de leur premier match, n'ont plus besoin que d'un point pour aller en huitième. La Norvège est dernière du groupe avec un point. Dans l'autre match de cette poule A, les Philippines ont remporté le premier succès de leur histoire en Coupe du monde. En battant 1-0 la Nouvelle-Zélande devant son public à Wellington, les matchs de cette deuxième journée se poursuivent demain. Dans le groupe C, le Japon et l'Espagne, qui ont fait forte impression face à la Zambie et au Costa Rica, ont de fortes chances d'assurer leur qualification pour les huitièmes en cas de victoire avant la dernière journée de ce groupe. Les Espagnols affrontent les Zambiennes et les Japonaises jouent contre les Costariciennes.
Sur le marché des transferts, Wilfried Zaha rejoint Galatasaray.
L'attaquant international ivoirien, ex-buteur de Crystal Palace, s'est engagé avec Galatasaray. Après 13 saisons en Premier League, a annoncé le club turc. Un accord a été conclu pour 3 saisons, a indiqué Galatasaray, champion de Turquie en titre, dans un communiqué qui ajoute que Wilfried Zaha, 30 ans, touchera 4,35 millions d'euros par saison et percevra une prime à la signature de 2,33 millions d'euros. Hormis une quinzaine de matchs sous les couleurs de Manchester United et de Cardiff City entre 2013 et 2014, Zaha est resté fidèle à Crystal Palace depuis ses débuts en professionnel en 2010. Il a inscrit avec l'équipe londonienne 90 buts en 458 matchs. L'Ivoirien évoluera aux côtés de l'attaquant international congolais Cédric Bakambu, qui s'est engagé dimanche avec le champion de Turquie.
Pour terminer, Yakuba, en athlétisme, Kelvin Kiptoum disputera le marathon de Chicago en octobre, ici aux États-Unis.
L'athlète kenyan, proche de battre le record du monde du marathon au printemps, s'alignera sur le parcours de Chicago le 8 octobre. Selon les organisateurs, Kelvin Kiptoum, âgé de seulement 23 ans, fait sensation sur marathon. Après des débuts remarqués à Valence, en Espagne, en décembre 2022, en 2h01:53, cinquième chrono de l'histoire, il a échoué à seulement 16 secondes du record du monde de son compatriote Eliud Kipchoge
En triomphant à Londres en avril en 2h01'25, légende de l'athlétisme aux deux titres olympiques, Kipchoge, 38 ans, a lui annoncé qu'il disputerait le marathon de Berlin en septembre, ce qui devrait reporter le duel attendu entre les deux athlètes. Sur l'épreuve féminine, dont le plateau de stars avait déjà été annoncé, la tenante du titre kényane, Ruth Chepngetich, va concourir notamment contre la néerlandaise Sifan Hassan.
C'était la page sport avec Yakuba Ouedraogo.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Nanit Talani. Passons maintenant à la page magazine. Certaines régions de l'est de la République démocratique du Congo connaissent une crise alimentaire à cause de l'insécurité. À Goma, par exemple, toutes les voies d'approvisionnement ont été coupées par les rebelles du M23, une situation qui fait grimper le prix des denrées alimentaires. Pour pallier ce problème, un jeune entrepreneur a créé Kivu Labor, un projet qui vise à produire plusieurs tonnes de produits agricoles grâce à la main-d'œuvre offerte par les personnes déplacées. Reportage de notre correspondant à Goma, Zanette Netizaidi.
Même si le travail dans les champs est difficile, mais ces personnes déplacées les font toujours dans une très bonne atmosphère. Comme Maréba Alphonsine, une femme déplacée et mère de 9 enfants qui vit dans le site des déplacés de Kanyaruchinya dans le nord de Goma. Elle fait partie des déplacés sélectionnés pour cultiver puis nourrir la ville de Goma et ses environs. Pour elle, ce travail arrive à point nommé.
L'initiateur du projet est venu nous chercher sur le site des déplacés et nous a donné de l'argent, 5 000 francs. C'est pourquoi nous cultivons dans l'espoir d'avoir de quoi nourrir les enfants.
Le projet en question est Kivu Labour, initié par le jeune Omuija Manassé, qui attend répondre aux besoins de la pénurie des produits alimentaires sur le marché de la ville de Goma et de ses environs en cette période d'aigueur. Avec plus de 8 hectares de terres arables déjà entre les mains de ce jeune entrepreneur, en 4 mois, la carte des prix du marché pourrait changer en faveur de la population.
J'ai pu constater que les haricots, une mesure était à 9 francs. Aujourd'hui, ça a monté jusqu'à 5 000. Un kilo de pommes de terre était à 500 francs. Aujourd'hui, c'est monté à 2 000 francs. Alors, j'ai été poussé comme un jeune entrepreneur de venir ici pour voir comment faire pour que je sauve un peu la ville, malgré que je suis limité par les moyens. Mais quand même, je sais que je vais aider la ville par ces moyens que je venais d'utiliser dans l'agriculture.
Cette approche est soutenue par des spécialistes de l'économie. Deo Bengiehia, professeur d'économie dans les universités de la région, estime que pour atténuer la menace de la crise alimentaire dans des régions en proie à la guerre, l'agriculture locale devrait être soutenue par le gouvernement congolais.
Par rapport à la ville de Goma et le souffle du marasme économique que le pays traverse en général, et surtout les effets pervers de la guerre que nous sommes en train de vivre, ça a encouragé, ça va aider, mais ça ne pourra pas juguler toute la situation parce que la demande est très forte. Mais c'est déjà un pas.
Omuija Manassé recrute plus de 100 personnes déplacées par jour à qui il donne une petite somme d'argent pour cultiver et s'aimer. Pour arriver à quelque chose de significatif, le jeune entrepreneur a besoin de beaucoup de soutien. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo. Au Gabon, les animaux sauvages divaguant tout près des villages perturbent la quiétude des populations de l'arrière-pays. Les plantations sont régulièrement détruites par les pachydermes. Des éléphants et certains félins tuent même les hommes et les femmes en forêt ou dans les maisons. Lors de sa récente tournée, le président Ali Bongo a promis une indemnisation de l'État aux victimes. Sur le conflit homme-éléphant dans les forêts de la Gounié, au sud du Gabon, voici le reportage de notre correspondant Ismaël Obianze.
Ah ben non, ah ben non, attaque, c'est mon Dieu, mon Dieu.
Jean-Paul Dengo est à bout de souffle. Ce cultivateur du village de Boudou dans le sud du Gabon découvre à son réveil ce qu'il redoutait le plus. Sa plantation de bananes et de manioc est littéralement saccagée par des éléphants.
Ça fait 3 jours que je ne viens pas ici là. Tout le temps c'est comme ça. Je viens regarder. Je vais aller où avec les enfants? Regardez comment la plantation. Ce n'est pas le seul plantation. Peut-être devant là-bas, ça sera toujours pareil comme ça là.
Les destructions se multiplient de village en village dans la même région. Ici en Mandji, Adeline Moussavo, une cultivatrice, nous oriente vers une autre exploitation agricole en ruine après le passage d'un troupeau d'éléphants.
Regarde, là-bas, derrière des bananes, là, ils ont fini tout.
Dans l'arrière-pays, à la lisière des forêts denses, les conflits entre habitants et animaux sauvages se multiplient. De plus en plus, les cas de destruction des plantations sont enregistrés près des réserves animalières protégées ou sur des sites affectés aux agro-industriels. Et quand le corridor réservé à ces animaux est perturbé, ils viennent se ravitailler dans les villages. Laurent Moussavou est un habitant de Mandji.
À cause des éléphants, nous sommes lassés. La population est lassée. Nous sommes fatigués. Nous souffrons de faim. À cause des éléphants, depuis que l'homme s'est planté, les éléphants nous envahissent.
Devant l'ampleur du phénomène, des solutions rudimentaires ont été inventées par des communautés pour protéger leur culture. Des boîtes vides de conserve sont attachées à une corde, elle-même suspendue sur un poteau d'environ 3 mètres. Basile explique comment cette stratégie permet de repousser les éléphants.
J'allume la lampe, je l'introduis dans un pot vide de 5 litres. Solidifié par un caoutchouc. Là, je suis en train de hisser comme si c'était, le mât de trapeau. Il suffit que l'éléphant voie. Allez, au lieu de prendre encore ce chemin, allez, il va ailleurs.
Des solutions dérisoires, mais tous les moyens sont bons. D'autres villageois vont dresser des campements autour et au milieu des champs et font du bruit ou allument des torches afin d'éloigner les pachydermes. Selon le gouvernement, le nombre de victimes des dégâts causés par les animaux sauvages s'élève à 13 000 à travers le territoire national. Les autorités ont promis une enveloppe de 4 milliards de francs CFA d'indemnisation aux victimes. De retour de Mouila dans le sud du Gabon pour VOA Afrique, Ismaël Obianzi.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Burkina Faso, un voyage du Premier ministre Apollinaire Kylem de Tambela la semaine dernière au Nicaragua fait polémique. Pour certains Burkinabés, il s'agit d'un pays lointain qui ne peut rien apporter à la lutte contre le terrorisme. Pour d'autres, c'est une visite essentielle car le Nicaragua est une terre de lutte et de résistance. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La visite officielle du Premier ministre a duré 72 heures à Managua, la capitale du Nicaragua. Il a participé à la cérémonie officielle du 44e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste et a regagné la capitale Ouagadougou. Ici, certains pensent que ce voyage était inopportun. Évariste Consimbo, chroniqueur média, président du Cercle de Veille.
Le Nicaragua, c'est aussi pas un modèle de gouvernance, c'est un pays qui a encore des difficultés. Tout ce que moi je peux dire que cette visite, ce que cette visite apporte, c'est le tourisme. En fait, cela permet au Premier ministre de découvrir des pays, parce que c'est un rêveur. En clair, cette visite ne peut rien apporter au Burkina Faso. La seule personne qui tire profit de ça, c'est le Premier ministre qui profite pour faire des voyages et des découvertes.
Issa Kalengani, journaliste et analyste politique, a réagi sur la télévision privée BFM.
Pour être honnête, si nous avons des gens qui nous aiment dans ce monde-là, et qui connaissent nos situations de drame, faut pas qu'ils nous appellent chez eux. Ils n'ont qu'à venir chez nous. Si le Nicaragua pense qu'il peut apporter quelque chose au Burkina Faso, il n'a pas appelé notre président ou notre premier ministre de venir là-bas. Ils envoient des gens travailler avec nous, voir les zones dans lesquelles ils peuvent avancer. Faut pas nous distraire dans des voyages. L'amitié, là, c'est un prix. On n'est pas en temps normal.
La révolution sandiniste désigne l'opposition à la dictature de la famille Somoza et la campagne menée par le Front sandiniste de libération nationale qui a conduit à la chute violente de la dictature en 1979, puis la réforme de la société et l'économie du pays malgré l'embargo américain. Les sandinistes ont été accusés de graves atteintes aux droits humains, notamment de torture, disparition forcée, d'exécution massive. malgré tout. D'autres Burkinabés sont beaucoup moins critiques de ce déplacement. Adama Sigiré, professeur de philosophie et écrivain.
Le Nicaragua, c'est une terre de résistance, c'est une terre de souveraineté. Ici, au Burkina Faso aussi, nous avons opté pour la lutte pour la souveraineté. Nous avons opté de chercher des modèles qui nous ressemblent. Nous avons décidé de faire les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce sont des visites encore à multiplier pour montrer notre volonté de nous affirmer, notre volonté de tracer notre modèle, de tracer notre voie et de ne pas dépendre des autres, surtout de ne pas dépendre de nos amis, surtout la France et ses alliés qui ont toujours cru que nous sommes nés pour les servir.
Le Premier ministre est revenu à Ouagadougou affirmant avoir été séduit par la discipline au Nicaragua. Il a déclaré que le Burkina a été honoré lors de la célébration du 44e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste, car étant le seul pays à y prendre la parole. Le Nicaragua est un pays d'Amérique centrale coincé entre les Honduras et le Costa Rica. Est-ce que le Burkinabé moyen, qui subit les assauts répétés des djihadistes, saura placer ce pays sur une carte? La réponse est beaucoup moins certaine. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les designers ou attacheurs de pagne sont les premiers maillons de la chaîne de fabrication des pagnes indigo, pagnes à motif ou bazin à design. Du travail méticuleux qui laisse beaucoup à désirer en termes d'indemnisation. Aïcha Diarra s'est intéressée à ce domaine d'activité dans la commune d'Anyama, dans le Grand Abidjan.
Nous sommes au quartier Cissé d'Anyama et Bema Koulibaly, jeune écolier en classe de 4e dans une école coranique, est assis à même le sol. L'aigu qu'il a entre ses mains pique le tissu blanc posé en face de lui. Il est en apprentissage auprès de son père.
Quand moi je sors à l'école à midi, je viens aider mon papa. On commence à midi, on arrête le travail à 18h30 là. J'ai pris beaucoup à mon papa. Mais bon, je peux dire que j'ai pris 3 modèles comme ça.
Une formation qui peut se faire sur au moins 5 ans. Ouattara Soumaïla exerce ce métier depuis plus de 10 ans.
À peu près 5 ans de formation. Auprès des parents, auprès des amis, auprès des cousins qui vous forment depuis le bas âge jusqu'à ce que vous deveniez un designer.
Un travail qui demande aussi beaucoup de prudence. Alors, la colle sur le doigt devient quelque chose d'indispensable. Touré Yaya est designer depuis plus de 20 ans.
Le fil là, souvent, ça nous blesse. Souvent, ça blesse jusqu'à le sang sort. Voilà, lorsque tu mets le col pour protéger ta main, voilà, là, tu n'as pas ce genre de problème.
Malgré ces difficultés, ces designers de pagne ont du mal à joindre les deux bouts. Soumaïla Ouattara.
Un pagne, ça fait 100 francs, le pagne. Donc, disons, une balle, il y a 160 pagnes dans le balle quand on découpe la balle.
Dans une semaine, vous pouvez faire combien de balles?
Je dirais, dans la semaine, nous pouvons attacher deux balles. Puisque le travail n'est pas du tout facile. Nous qui sommes un peu jeunes, c'est nous qui nous forçons même à pouvoir faire un peu plus, sinon on ne peut pas dépasser les deux balles dans la semaine.
Pour un calcul rapide, l'on dira 16 000 francs par balle de tissu. 100 francs qui est une nette amélioration de leur paye. Koulibaly Bamouri, à 56 ans de métier, a connu l'évolution des payes pour chaque design.
Avant, c'était 25-20. Maintenant, avec la charte de vie, c'est ça qui a fait qu'on a mis ça à 100 francs. Et pour qu'on arrive à faire notre besoin, on n'arrive pas à sortir même. On se débrouille seulement. On n'a pas un autre métier à faire. Bon, faut qu'on se débrouille.
Une précarité qui fait fuir les plus jeunes de plus en plus, selon Touré Yaya.
Quand ils nous voient des informels comme ça, ça ne les intéresse pas. Ils voient ça comme travail en tout cas. Même ceux qui sont nous, c'est les élèves, ils vont à l'école lorsqu'ils sont en vacances, à cela, ils viennent travailler avec nous pour pouvoir avoir un peu d'argent pour payer les achats, etc. Sinon, quand il y a l'école, là, ils s'en vont. Hein.
Pourtant, pour un lendemain meilleur pour ce métier, cette jeunesse est le seul espoir.
En tout cas, moi, je souhaiterais que les jeunes s'intéressent à ça là beaucoup. Peut-être aujourd'hui, nous, on a des informels. Peut-être demain, quelqu'un peut aller à l'école, venir développer ça, pour faire ça un grand truc, pour faire hygiène même dans ça. Donc quand les gens ne s'intéressent pas à ça, vraiment, c'est un peu difficile.
Il faut noter que nous n'avons rencontré aucune femme designer à Agnaman. Certains hommes disent qu'ils n'en ont jamais connu. Seul Touré Lassina, le doyen du métier, a souvenir d'une femme et cela remonte à 1977. Et elle avait été formée par son époux. Ces designers sont aussi ceux qui composent les couleurs des tissus avec des produits chimiques qu'ils manipulent à longueur de journée. Aïcha Diarra, Agnaman, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir à toutes et à tous.